France Bleu, RCFM. France
Bleu, RCFM, le Mag Sport.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Allez, de nouveau ensemble dans votre magazine des sports sur RCFM ce soir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Un bon début de soirée. Et comme promis, une page athlétisme que nous ouvrons à présent. C'était ce dimanche la reprise de la saison en course à pied. On va parler de cette compétition qui s'est tenue du côté d'Ajaccio au milieu des vignes du Clos Peyral, dit le mémorial Alain Lemoal, organisé par le CA, le Cercle Athlétique Ajaccien. Alors pour revenir sur cet événement, nous sommes avec en direct donc avec Michel Huertas, le président du club organisateur. Michel Huertas, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors tout d'abord, quelques mots pour nous présenter cette compétition, le mémorial Alain Lemoal. Quel parcours, quelle distance, quel type de course et combien de participants d'ailleurs aujourd'hui?
Alors écoutez, aujourd'hui c'était la 36e édition du Mémorial Alain Lemoal. Vous savez que c'est le Mémorial Alain Lemoal est dédié donc à la mémoire du président fondateur du Cercle Athlétique Ajaccien qui est décédé en 1984, donc chaque année on commémore sa mémoire. Donc aujourd'hui nous avons fait courir 532 athlètes, donc c'est disons une très belle performance. Tous les clubs insulaires étaient présents à cette manifestation sportive qui se déroulait donc sur le parcours du domaine de Peyral, un très beau parcours parce qu'on voit les athlètes tout le long de la distance. Ça a été depuis les babies, depuis jusqu'au master. Hein. Cette année en plus, nous avons innové avec les canicross. Hein. Il y avait 30 équipages hommes et femmes avec leurs chiens. Donc ça a été le coup du spectacle. Tout le monde a été surpris de voir ces gens courir avec leurs animaux préférés. Donc, animaux, voilà.
Ça, c'était la nouveauté, donc le canicross de cette édition.
Oui, tout à fait. Et ça nous a permis, disons, de voir beaucoup de choses, de nouveautés. L'année prochaine, on essaiera encore d'aller au devant d'autres courses. On fera une course relais. C'est une nouvelle discipline de la Fédération française d'athlétisme et même internationale, puisque ça a lieu même au championnat du monde. Hein. Donc l'année prochaine, on mettra au programme cette course. C'est une course relais entre quatre équipiers, dont deux femmes et deux hommes.
Alors, ce rendez-vous organisé par le CAA, le Cercle Athlétique Ajaccien, ça marque la reprise, la rentrée hein, pour les coureurs. C'est un rendez-vous important.
Oui, c'est la rentrée, en fait, c'est la rentrée de 2020, hein, puisque je vous dis, il y a eu d'autres crosses, il y a eu le cross de la SPV et de la SPTT. Hein, donc là, c'est pour l'année nouvelle, hein, c'était après les fêtes, ça fait du bien à tous les athlètes de reprendre un peu le chemin des vignes pour se enlever un peu tous les excès qu'ils ont fait pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an.
Exactement, c'est l'occasion. Alors quelques mots, Michel Huertas, sur le palmarès. Qui sont les lauréats dans chacune des catégories qui ont été courues? Enfin, en tout cas, si on peut pas toutes les citer, au moins quelques vainqueurs, quelques lauréats.
Non, tout à fait. Dans les crosses longs masculins, donc c'est le favori, c'était de la JB, c'était Barral Sullivan. Hein. Ensuite, il y a eu Brunery et Christophe du CA Propriano et Charrière et Julien du GFCA. Hein. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est Magnavac Marilyn du GFCA qui est toujours la favorite de ces compétitions. Mais ensuite, vous avez dans le cross-court Régnier Martine qui termine première devant Fegas Marie-Pierre du Sac Athlétique Ajaccien. Après une course bien, vraiment bien disputée. Donc, et ensuite, le plaisir de voir un peu tous ces jeunes gens qui ont à cœur de se préparer, parce que dimanche prochain, il y a un cross à Bastia, et ensuite, en février, il y aura ce qu'on appelle les régionaux, et les régionaux seront qualificatifs pour les pré-France qui se passeront sur le continent à côté de Grasse, puis exactement à Opio. Donc aujourd'hui, c'était plutôt une compétition de reprise pour pouvoir savoir à quel niveau ils étaient par rapport à leurs collègues ou autres candidats.
D'accord. Donc une mise en jambe en début d'année, le moyen aussi donc de vous le disiez hein, de jauger où on en est dans la saison, dans notre niveau pour les coureurs. Bon, on l'a compris, une édition 2020 qui est visiblement réussie. On est reparti pour une 38e édition l'année prochaine.
Non. 37e. Aujourd'hui, c'était 36.
C'était 36.
Ça sera la 37.
Voilà. Donc, ce sera la 37e. Merci beaucoup à vous, Michel Huertas.
Merci beaucoup à RCFM et à vous-même. Bonne soirée.
Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Voilà, Michel Huertas qui était avec nous pour nous parler de ce bel événement qui marque la reprise de la saison pour la course à pied en Corse, le mémorial Alain Lemoal, organisé par le Cercle Athlétique Ajaccien. C'était donc à Ajaccio, du côté du Clos Peyralde. Nous, on va se retrouver juste après cette petite pause musicale pour parler ensuite de volleyball.
Stimanti per te nu bevi di lontani vuole n'aspetta aspetta domani veni o gara se alza l'usore veni con me non mi lascia più solo veni o gara se alza l'usore veni con me non mi lascia più solo sereno, fanno i nidi, un cielo è pieno di riso gridi, di lagili o canto e adu, un nostro amore ha proclamato, bagno gara, se alza tu sole, bagni con me, non mi lascia più solo, bagno gara, se alza tu sole, bagni con me. Mi lascia più solo.
RCFM, vous êtes bien sûr RCFM, on vient d'écouter Diana Dillalba et cette très belle chanson. On va continuer bien notre magazine des sports, votre rendez-vous du dimanche soir, évidemment. Pour parler, comme promis, eh bien, de volleyball, on revient dans les sports collectifs avec cette séquence consacrée au volley. On va s'intéresser plus précisément au GFCA volley, porte-drapeau insulaire, hein, en Coupe d'Europe, cette saison encore, le GFCA volley qui fera sa rentrée rentrer, lui, mercredi prochain sur le parquet du Paladino. À la mi-saison, eh bien, c'est l'occasion de faire un point complet sur les ambitions du club, sur l'état de forme des joueurs et puis les objectifs à plus ou moins long terme. Eh bien, je reçois dans un instant Frédéric Ferrandez, l'entraîneur du GFC à Volley.
RCFM, le mag des sports.
Frédéric Ferrandez, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Frédéric Ferrandez, merci d'être avec nous ce soir sur RCFM dans notre magazine des sports. Premier magazine des sports de 2020. Bonne année, Pace et Salut, et tout d'abord.
Pace et Salut à toutes.
Alors ça y est, le GFCA Volley s'apprête à reprendre le chemin des filets, attaquer sa deuxième partie de saison. Tout d'abord, est-ce que coach, la trêve a été bénéfique? Elle était nécessaire pour vos joueurs, pour le staff technique?
Oui, la trêve était nécessaire. Maintenant, bénéfique, je ne sais pas encore. On verra les résultats dès ce début de phase retour avec deux matchs très importants que sont Narbonne et Nice. En tout cas, on avait puisé énormément dans les organismes et il fallait un moment souffler parce que même pas, on l'a senti sur le dernier match avant de justement de ne pas jouer ce match de Nantes. Ce match de Coupe d'Europe, on y a laissé pas mal d'énergie et de plumes. Donc je dirais que oui, la trêve pour l'instant a été bénéfique.
Voilà, vous avez été en vacances un peu plus tôt que prévu, avec à cause plutôt des intempéries, la tempête Fabien qui a empêché la tenue de ce match contre Nantes.
Oh, plutôt non, puisqu'on s'est quand même présenté au match, mais on savait qu'on n'en avait pas joué, donc ça veut dire que le samedi soir on était présent ici. Mais c'est vrai que ce match nous manque parce que comptablement parlant, c'est pas encore à quelle place on se situe réellement. Est-ce qu'on est cinquième tout seul? Est-ce qu'on est huitième à plusieurs? Donc voilà, pour l'instant on sait pas trop à quel niveau vraiment on se situe à cette mi-saison, mais c'est entre la cinquième et la huitième place, donc c'est au-delà de nos espérances pour l'instant.
Donc ça fausse un peu la donne pour le moment.
Oui, ça fausse un peu la donne, parce qu'on va jouer cette équipe pratiquement à l'avant-dernière journée du championnat de la phase retour. Donc ça va complètement changer. C'est justement après le match retour que l'on va rejouer le match aller chez nous. Donc ça va être un petit peu bizarre comptablement parlant. Mais bon, on fera le travail comme on se doit de le faire.
Alors avec un peu de recul, quel regard avez-vous, quel bilan pourriez-vous faire sur cette première partie de saison?
Cette première partie de saison, on savait que ça allait être la partie, entre guillemets, la plus facile, parce qu'on avait un calendrier qui nous était avantageux. Donc, il fallait prendre énormément de points. Il fallait pas se planter sur cette première partie de saison. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a très bien fait d'ailleurs, parce que les joueurs ont répondu présent quand il fallait. Maintenant, sa phase retour, elle est bien plus complexe, avec des déplacements périlleux chez, justement, des équipes qui vont jouer le maintien avec nous. Donc, compliqué. Mais bon, du moment qu'on a bien géré cette phase aller, le reste, on aura le temps de s'inquiéter.
Alors coach, on savait qu'on partait pour un exercice 2019-2020 avec beaucoup d'incertitudes, incertitudes quant à la capacité à résister financièrement, à boucler un budget qui vous permette eh bien de rester en haut, et aussi quant à la capacité de rester donc parmi l'élite. Sportivement parlant, vous êtes quelque peu rassuré aujourd'hui?
Oui, dans cette première phase, on est rassuré, mais rien n'est fait. Hein. On est à pas énormément de points de différence du premier relégable, donc il faut être très vigilant, comme je disais tout à l'heure, cette phase retour. Mais c'est vrai qu'on a fourni du beau jeu, je vois des joueurs investis, je vois des joueurs qui progressent. Donc à partir de là, si l'on continue dans cette orientation-là, on devrait continuer à performer.
Alors le GFC Volley a dû entamer cette nouvelle saison avec un effectif fortement renouvelé, beaucoup de jeunes, je crois à peu près 80% de nouvelles recrues dans le nouvel effectif. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le pari est gagnant?
Dans cette première phase, oui, le pari est gagnant. On a réussi à sortir des jeunes qui étaient en manque de temps de jeu dans d'autres clubs. Ils ont eu du temps de jeu chez nous, ils ont montré qu'ils avaient le niveau. Maintenant, il faut voir si cette progression elle va durer ou est-ce qu'ils vont stagner. Donc, est-ce qu'ils sont arrivés au maximum de leur capacité? Donc, il y a pas mal de petites questions qu'on se pose. Après avoir fait un bilan individuel avec chaque joueur puis collectif, moi, je sens qu'ils en ont encore sous le pied. Donc, à moi, essayer de pousser au maximum et trouver les bons outils pour qu'ils continuent à faire des performances comme ils le font.
Donc des joueurs qui ont réussi à progresser ensemble, qui ont appris à se connaître au fil de la saison. Il y a eu des révélations justement parmi ces joueurs, parmi les jeunes au cours de ces premiers matchs lors de la phase aller.
Ah, j'aime pas sortir un élément. C'est toujours dur pour un entraîneur de sortir un élément de son collectif. Je pense que c'est une mayonnaise qu'a pris, oui, parce que c'était pas évident. Tous ces jeunes réunis avec 3-4 anciens au milieu, je me demandais est-ce que ça allait prendre ou est-ce que ça allait créer des clans dans les vestiaires. Non, pas du tout. C'est une parfaite osmose pour l'instant, pardon. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui ont plus progressé que d'autres. Hein, on les voit, hein, mais on voit que certains ont des phases d'acquisition qui vont être un petit peu plus longues, mais qui ont déjà répondu présent quand j'ai eu besoin. Donc c'est vrai que des éléments comme Trouchev, comme Roata ont pour l'instant pris le bon chemin. On voit que notre pointu Bentara est sur le bon chemin, mais un petit peu en retrait. J'attends un petit peu plus de lui, donc il va prouver, j'espère, sur sa deuxième phase qu'il est bien présent. Et pareil pour Gilles Lamba, Clément Bourakine, etc. Tous ces jeunes-là sont juste un petit peu derrière, mais poussent au portillon, et j'espère qu'ils vont les pousser encore longtemps.
Alors certains, malheureusement, ont été blessés dès le début de la saison. Ça vous a pas mal handicapé?
Ah oui, complètement. La blessure de notre passeur, ça a été vraiment l'élément très important de ce début de championnat. Ça fait qu'on a commencé, tous nos matchs amicaux ont été biaisés sans passeur. L'arrivée de Jomel tardive a fait que les deux premiers matchs ont été bien en dessous d'un niveau de Liga. Mais on a su réagir, on a su malgré tout se prendre en main, prouver que l'on méritait d'être à ce niveau-là, prouver aussi qu'il fallait encore se maintenir cette saison malgré tous les événements que vous avez dit précédemment. Mais c'est pas encore facile, c'est pas encore fini, mais je pense que pour l'instant, si on continue sur cette voie, j'insiste, on devrait faire encore de belles choses.
Alors maintenant, les objectifs, est-ce qu'ils ont évolué? Quels sont-ils exactement pour l'équipe? Le maintien, les play-offs, vous êtes toujours à l'heure actuelle dans le top 8, 7e ex-aequo. Quels sont-ils?
Le président nous a annoncé le maintien, donc on va tout faire pour le maintien. Mais en interne, on a envie, nous, d'être dans les 8. Ça, on va pas s'en cacher, hein. C'est terre-off. Donc c'est la première fois que je l'annonce aux médias. Mais voilà, c'est le maintien dans un premier temps, en tout cas. Et après, on fera tout pour être dans les play-offs. Et on fera tout pour passer encore un tour de Coupe d'Europe. Et espérer jouer un gros calibre européen. Parce que cette équipe mérite de se confronter à un cadeau.
Alors justement, l'aventure européenne, elle continue. Et c'est tant mieux. Et là aussi, vous avez espoir d'aller le plus haut possible. Comment ça va se passer, la suite?
La suite va se passer très difficilement. Parce qu'on va encore recevoir le premier match contre la Bosnie. Se déplacer chez eux au match retour. On a vu qu'ils avaient éliminé cette équipe de Lausanne qui était deuxième derrière l'équipe d'Amoisville que l'on a joué précédemment. Donc ça veut dire que c'est une équipe bien plus forte que Lausanne, donc ça doit être du calibre d'Amoisville. À nous à être sérieux et à piquer, il y a moyen de passer ce tour-là. Et si on passe ce tour-là, derrière, on va jouer justement, je pense que la meilleure équipe qu'on ait jamais vue évoluer au domicile, en Coupe d'Europe en tout cas, cette équipe de Boden avec cette pléiade d'internationaux, des joueurs extraordinaires qui ont tout gagné, les Jeux Olympiques pour certains, voire d'autres compétitions, des championnats du monde, etc. pour d'autres, avec des Aitsev, des Anderson, bon, des Holt, c'est des joueurs que l'on n'a jamais vu évoluer au Palatine. On a vu une fois ce genre d'équipe, et encore c'était une équipe moindre, c'était Izmir. Là, imaginez que ce serait une équipe trois fois plus forte qu'Izmir, donc voilà, ce sera un match plus qu'élevé pour nous.
Donc se mesurer à un Lyon, pourquoi pas créer l'exploit?
Ah oui, c'est comparable au foot, à des Liverpool, des Real, des Manchester, des Bayern de Munich, ce sera ça, et ce sera, je pense, une fête du volet, et j'espère qu'on se qualifiera pour jouer ce genre de match, parce que c'est grâce à ce genre de match-là que tout le monde évolue, que ce soit le club, que ce soit les joueurs. Donc il faut se confronter au meilleur pour progresser.
Quoi qu'il en soit, ce sera une expérience extraordinaire pour les joueurs. Juste quelques mots avant de conclure sur les toutes premières rencontres de l'année. Donc Fred Ferrandez, la réception de Narbonne, c'est mercredi au Paladin, nous arrive très très vite. Et puis le déplacement à Nice vendredi, ça va pas mal s'enchaîner.
Là, comme vous venez de le dire, on joue mercredi soir ici et on repart le lendemain matin pour jouer deux jours après sur le lendemain contre Nice. Donc je comprends pas ce championnat, je le comprendrai jamais d'ailleurs, avec autant de repos et après enchaîner les matchs tous les deux jours. Je comprends pas l'utilité, donc ça va se jouer encore là sur la récupération, ça va se jouer sur le banc aussi, parce qu'il va falloir que certains jeunes prennent les affaires en main sur ce deuxième match, parce que ça va se jouer là. On a un petit peu plus de rotation que Nice, donc à nous à prouver que Nice à domicile est difficile à jouer. Ils ont pris tous leurs points à domicile d'ailleurs. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Narbonne-Nice sont les deux matchs les plus importants pour moi de la match retour, sur la phase retour. Et par rapport au championnat, ce sont deux matchs qui s'enchaînent.
Vous le disiez, des bizarreries dans le timing, dans le rythme de ce championnat. Et il faudrait faire quelque chose. Est-ce que la fédération, est-ce que la Ligue de volley peut faire évoluer les choses?
Bon, écoutez, en tout cas, ils ne font pas évoluer dans le bon sens pour moi depuis un long moment. On voit des bizarreries tout le temps. On l'a vécu l'année dernière où ils nous changent la formule des play-offs au dernier moment. C'est juste l'année où nous sommes deuxième, on ne va pas faire les persécuter, mais à un moment, il faut qu'ils arrêtent. À un moment, il faut que le calendrier soit établi en début de saison avec les entraîneurs, avec les dirigeants, pour mettre quelque chose de cohérent ensemble. On a quand même trois mois entre la fin du championnat et le match, le premier match de la phase retour, voire quatre. Donc on a quand même du temps d'une saison à l'autre de faire des bonnes choses. Maintenant il faut tous se mettre autour d'une table, mais ça c'est jamais chose facile d'entendre les critiques.
Avant de se quitter, Fred Ferrandez, je voudrais juste qu'on parle de cette réserve, parce que depuis le début de cette saison 2019-2020, le GFC a volé, dispose de sa réserve en National 3. C'est extrêmement important pour le club de pouvoir avoir ce centre de formation, de compter sur cette réserve.
Ah oui, c'était un objectif que j'avais demandé au club il y a pas mal de temps. Là, on a réussi à le mettre, comme je disais en début de saison, le mettre en place l'année où on est le plus en difficulté. Mais il fallait le faire. Pour moi, c'est une obligation. C'est une orientation qu'il faut avoir pour le club, pour pouvoir avoir des éléments insulaires dans un premier temps et des jeunes qui arrivent justement pousser un petit peu les joueurs en place. Et je pense que ça sera toujours bénéfique pour n'importe quelle équipe, pour n'importe quel joueur. Donc ce centre de formation est très important et en plus je suis très agréablement surpris des prestations qu'ils font à chaque sortie. Chaque sortie, cette équipe progresse, les jeunes progressent. Donc écoutez, pour l'instant, cette moitié de championnat, que ce soit avec l'équipe pro, l'équipe du centre de formation ou même toutes les équipes de jeunes et de filles que nous avons au club, tout le monde performe. Le GFC a le vent en poupe et que ça dure le plus longtemps possible.
Ça booste le volley en Corse?
Ça booste, oui, bien sûr, ça booste le volley. Il faut une équipe première qui entraîne tout le monde derrière lui dans la bonne position, dans le bon sens, pardon, le plus positivement possible. Et c'est vrai que si on peut être le wagon moteur de ce train-là, on va essayer de l'être le plus longtemps possible.
Bien, Frédéric Ferrandez, merci beaucoup. Je vous libère et on vous souhaite évidemment avec tous vos joueurs une excellente année 2020. Merci d'avoir été avec nous dans ce magazine des sports ce soir.
Merci à vous tous.
RCFM insieme Simone.
Ma sto sogno così raro era tanto ricercato, o tenia troppo caro, perché l'uvo si restato.
RCFM è più belle con son ego. RCFM.
RCFM, nous sommes de retour dans votre magazine des sports ce soir. Bienvenue à vous. 2020, c'est une année olympique qui s'ouvre et vous le savez, une année que certains athlètes corses vont vivre de façon tout à fait particulière. Le rêve olympique, il n'est jamais bien loin pour certains. C'est le cas, eh bien, par exemple, en karaté. Le karaté qui sera pour la première fois au JO cette année à Tokyo. Et la championne, l'ajaxienne Alexandra Ferracci, fraîchement médaillée de bronze des championnats d'Europe en 2019 en Espagne, vise cet objectif. Alexandra Ferracci, elle est avec nous ce soir dans le magazine des sports.
RCFM, le mag des sports.
Alexandra Ferracci, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, bonne année à vous, meilleurs vœux pour 2020.
Merci à vous aussi.
On va aller droit au but, puisqu'on le disait, 2020 c'est une année olympique avec ces Jeux de Tokyo cet été. On imagine que le premier vœu sportif que vous souhaiteriez voir se concrétiser, c'est évidemment une participation pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
Tout à fait. Donc, décrocher ma qualification au TQO, au tournoi qualificatif olympique au mois de mai prochain.
Donc, c'est sur ce tournoi, sur seulement cet événement que va se jouer la qualif
Oui, parce que du coup, aujourd'hui, on vise plus le ranking. On enlève quelques compétitions parce que donc c'est vrai que sinon, ça fait beaucoup. Et on préfère vraiment me perfectionner techniquement, m'envoyer au Japon aussi pour encore mieux me former et tout miser sur cette compète.
Quelle performance vous allez devoir réaliser pour obtenir le billet pour Tokyo ?
Eh bien, là, justement, on est en train de travailler un kata phare, si tout se passe bien, donc pour accéder donc, lors de la finale et se classer dans les trois premières et décrocher ce ticket.
Alors pour les néophytes du karaté, ceux qui ne connaissent pas spécialement la discipline, qu'est-ce que c'est le kata ? C'est votre spécialité, le kata ?
Donc le kata, c'est un enchaînement de techniques codifiées, voilà, donc en étant le plus rapide possible, avec un travail de fluidité, mais aussi en puissance. Donc c'est vrai que voilà, tout ça après, ça se joue avec les filles. Donc il faut être le plus rapide, aussi très stable et un bon équilibre et puissante.
Sous l'œil des juges et ensuite les notations départagent les différentes compétitrices.
C'est ça, il y a 7 juges et donc forcément ils retirent aussi les notes les plus hautes et les plus basses et en fonction de la moyenne, c'est comme ça qu'ils définissent les meilleurs.
Alors quand vous dites pour ce tournoi qualificatif au mois de mai, vous allez préparer avec votre papa, votre coach, un kata phare, ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire qu'on l'avait un petit peu mis de côté depuis un moment et c'est quand même un kata qui est très long, avec un saut, avec des prises de risque assez importantes. Donc c'est vrai que du coup, on veut miser sur tout ça et sur un kata plutôt élevé.
Donc vous allez rehausser votre niveau, prendre plus de risques pour mettre le maximum de chances de votre côté.
Voilà, c'est ça, bien sûr. Donc un maximum de chances pour cette qualification.
Alors, quelle préparation actuellement vous avez jusqu'à cet été pour Tokyo ? Quelle préparation vous avez spécifiquement pour les Jeux ?
Donc là, c'est vrai que j'ai beaucoup aussi de préparation physique. On est beaucoup sur un travail d'explosivité, parce que comme je disais, c'est vraiment aussi une des qualités dans ma discipline. Mais sans oublier la partie technique. Donc on essaye de faire un peu du 50-50 par semaine. Donc ça équivaut à peu près à du 18 heures d'entraînement par semaine. Donc voilà comment on peaufine tout ça pour la préparation.
Alors vous baignez dans le haut niveau depuis pas mal d'années maintenant, du haut de vos 27 ans. Vous combinez le sport et votre travail, parce que vous avez un métier à côté, à Ajaccio, à la CAPA, la communauté d'agglomération. C'est quoi une journée type ? C'est quoi une semaine type pour Alexandra Ferracci ?
Alors, justement, donc c'est vrai que je travaille à la CAPA, mais j'ai été détachée à 100% depuis mars dernier. Donc c'est une grande opportunité que me fait mon employeur et aussi mon service, parce que c'est vrai que c'est pas évident, il se retrouve avec un agent en moins. Et donc aujourd'hui, je peux me consacrer en fait qu'à ça. Donc j'ai plus besoin de travailler. Et donc mes semaines type, voilà, c'est aujourd'hui, c'est je me lève, c'est je pense JO, karaté, entraînement au muscu, enfin, et ça s'arrête là, heureusement. Et je peux aussi même me reposer, avoir du temps de repos un peu plus important.
C'est important pour le corps, important pour l'esprit.
Ah oui, tout à fait. Ben, je suis la première à dire que le repos fait partie de l'entraînement. Bon, c'est pas toujours évident de le mettre en place, parce que je suis une acharnée de travail, mais c'est bénéfique pour le corps.
Et le fait d'avoir cette disponibilité à 100% pour votre sport, c'est bénéfique.
Ah oui, totalement. J'ai senti une différence, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, le corps, il fatigue aussi. Donc, quand je partais en début de semaine, du lundi au mercredi sur Paris, après, je rentrais donc du jeudi au vendredi, je devais travailler, plus mes entraînements et les week-ends aussi. Donc, c'est vrai que ça faisait beaucoup d'allers-retours en avion. Donc, c'est vrai que c'est une chance que me fait la CAPA aujourd'hui.
Alors, vous avez un entraînement spécifique, vous avez aussi un programme de compétition, on l'imagine, bien choisi, bien calibré jusqu'à l'échéance de Tokyo.
Oui, tout à fait. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a sélectionné un certain nombre de compétitions, on ne veut pas trop en faire. La saison passée, justement, on a voulu toutes les faire et ce n'était pas bien parce que du coup, j'ai fini en burn-out en fin de saison parce que du coup, c'est sûr qu'en étant insulaire, ce n'est pas évident aussi de toujours partir m'entraîner avec mes coachs. Mais là, du coup, on la joue plus intelligemment et étape par étape, et on sélectionne les grosses compétitions.
Alors, l'année 2019, pour vous, c'est plutôt bien passé au regard de vos résultats, avec une médaille de bronze au championnat d'Europe à Guadalajara en Espagne. C'était au mois de mars. Puis, l'été qui arrivait, il y a eu un nouveau titre de championne de France en kata. On peut dire que vous êtes au top de votre forme en ce moment ?
Oui, forcément, là, ça se peaufine bien. Donc, c'est vrai que j'ai toujours à cœur de remporter les coupes et les championnats de France. Là, les troisièmes au championnat d'Europe me redonnent aussi confiance parce que, et pour la suite, c'est vraiment important de marquer les esprits.
Aller à Tokyo, D'accord. Pour vous, c'est y participer déjà, c'est un bel exploit. Mais aller y décrocher une médaille, on imagine que c'est l'objectif en tant que grande compétitrice que vous êtes.
Ah oui, tout à fait. En tant que compétitrice, moi, participer, ça ne fait pas trop partie de mon vocabulaire. Donc, bien sûr qu'on va tout faire pour ramener une médaille.
Vous avez déjà un œil, on l'imagine, sur vos adversaires qui seront présentes à Tokyo, peut-être ?
Oui, oui. Je connais plus ou moins les têtes de série. Donc voilà, donc on continue à travailler en parallèle parce que on va essayer de les écraser et de monter nous sur la boîte.
Et c'est important de surveiller, entre guillemets, ce que font vos adversaires, voir leur évolution, leur niveau.
Pas pour ma part, en tout cas, c'est vrai que je me focalise vraiment que sur ma prépa, chacune a sa prépa, ça sert à rien, je pense, de se mettre des barrières supplémentaires ou une pression supplémentaire à regarder ce qu'elles font. On aura toute une préparation différente et des qualités différentes, donc ça sera la meilleure gagne sur le tatami.
Participer au jeu, rien que cela, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
C'est un aboutissement, c'est vrai qu'en plus, qui plus est, ce sera peut-être les premiers et les derniers, donc du coup, j'ai encore plus à cœur de participer à cet événement, quoi. Donc c'est le Graal, c'est la compétition suprême, quoi.
Les premiers et les derniers ?
Sûrement, parce que pour le moment, pour 2024, on est très mal positionné. Alors on essaye de faire encore du forcing pour rentrer sur les listes additionnelles, mais c'est pas encore gagné.
Parler du karaté, de la présence du karaté au jeu.
Voilà, c'est ça, tout à fait. La présence du karaté, peut-être en 2024, n'y sera plus. Donc c'est vrai que grosse désillusion, parce que 2020, c'est pas encore passé, on n'a pas pu faire nos preuves, et il nous retire déjà, en fait, le bébé, j'ai envie de dire. Donc au moins, même si on n'y sera pas en 2024, marquez les esprits pour 2020.
Pour l'avenir, et pour espérer y figurer à nouveau aux prochaines Olympiades 2028.
Oui, c'est ça. Et si on ne parvient pas à y rester, être la seule et l'unique à pouvoir dire que j'ai pu prétendre à cet événement.
Alors le karaté, on l'a évoqué, pour vous c'est aussi et surtout une histoire de famille. Votre père qui est votre entraîneur, votre sœur qui évolue elle aussi à haut niveau dans la discipline, d'être tous ensemble dans, entre guillemets, ce clan familial, c'est l'une des clés de la réussite dans votre rêve sportif.
Oui, oui, le clan Ferrach, c'est vraiment une force. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que à un moment donné, forcément, il y a la famille aussi qui reprend le dessus. Mais moi, pour ma part, c'est vraiment une force d'avoir mes parents en tant qu'entraîneur et mais aussi ma petite sœur parce qu'ils comprennent ce que je vis. Ils comprennent aussi mes sacrifices, donc c'est vraiment top.
Votre petite sœur vous accompagnera peut-être à Tokyo ?
En tant que spectatrice, parce que forcément c'est une représentante, mais bien sûr papa et maman ont déjà pris les billets, ma petite sœur aussi sera là et j'ai des amis aussi qui vont me suivre.
Merci beaucoup Alexandra Ferracci d'avoir été avec nous sur RCFM dans ce magazine des sports ce soir.
Merci à vous.
À très bientôt et on espère que cette année sera sous le signe de l'olympisme pour vous.
Merci, à bientôt. It's been lonely. Trying to get your attention from 1,000 miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Et tu le sais, je suis seule, égarée à nous chercher. L'océan nous arrache, peur de s'essouffler. Fais-moi signe, je suis là et je nage.
RCFM, le Mag Sport.
France Bleu, RCFM.
France Bleu.
RCFM, il est 18h45, vous êtes toujours dans votre magazine des sports, un bon début de soirée à vous. Et notre magazine des sports qui va nous amener ce soir à parler d'équitation, les sports équestres qui, rappelons-le, eh bien, figurent au regard du nombre de pratiquants, de licenciés dans le top 3, des fédérations les plus importantes au niveau national comme au niveau régional. Alors les cavaliers, eux aussi, ont repris ce week-end, ce dimanche, le chemin des terrains de compétition. Il y avait un concours de saut d'obstacles organisé à Bigoul, il y a un concours de dressage organisé samedi et aujourd'hui du côté de Corté, le club Equiloisirs. Une saison 2020 avec beaucoup de nouveaux projets aussi pour le comité régional d'équitation. Son président est avec nous en direct par téléphone dans ce magazine des sports, Laurent Duborget. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur RCFM. Alors, Laurent Duborget, on sait que cette, non pas l'année dernière, mais l'année 2018, ça a été un cru tout à fait exceptionnel pour l'équitation corse, avec trois titres de champion de France qui ont été décrochés par des cavalières, hein, des trois championnes de France. Il y en avait deux en concours de saut d'obstacle. La troisième, c'était en concours western. C'était historique. C'est quelque chose d'ailleurs qui s'est vu dans très très peu de sports chez nous. Est-ce que l'équitation est toujours sur cette bonne dynamique ?
Oui, tout à fait. Donc oui, donc en fait, ces deux titres sont venus concrétiser en saut d'obstacle près de 10 ans où les gens avaient frôlé des podiums, où on avait déjà fait un podium en 2009 avec Émilie Fantone, et ensuite des titres de vice-champion aussi. Les concours ensuite se sont enchaînés, et après c'est sûr que l'année 2018 a été un grand cru. On aurait pu même en faire plus parce que ça a manqué pour pas grand-chose pour certains cavaliers. Et donc dans ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau amateur, amateur 2, amateur 1 et amateur élite, les cavaliers sont très performants.
Alors quand on parle de niveau amateur 1, amateur 2, ça signifie quoi par rapport, comment on se situe, quelle hauteur d'obstacle, quel niveau par rapport à ce qu'il y a de plus haut?
Ça correspond, donc l'amateur 1, c'est le niveau 120, amateur élite, c'est niveau 130.
120 cm, 130 cm.
Voilà, voilà. Et en amateur 2, c'est 110. Donc c'est un petit peu le niveau pré-professionnel, hein, puisqu'au-delà des 130, on parle de niveau pro, où nous, on a des cavaliers qui sont dans l'intermédiaire, c'est-à-dire amateur élite et pro. Et en fonction de leur calendrier, certains cavaliers basculent en cavalier professionnel. Et là, ils peuvent aller courir des épreuves au-delà des 140.
Et aujourd'hui, en Corse, on a des cavaliers de niveau professionnel?
Alors, on a des cavaliers, en fait, nous, au niveau des épreuves, du choix d'épreuves qu'on leur donne, ils ont des épreuves jusqu'à 135. 135, donc, ça correspond à l'amateur élite et le début des pros, donc la Pro 2. Après, bien sûr, c'est la raison qui fait que les gens basculent en pro, c'est beaucoup par rapport à leurs chevaux et leur calendrier, leur possibilité de partir souvent courir sur le continent, sachant que voilà, nous, on n'a pas d'épreuve au niveau des 140. Hein. Voilà, donc on a eu des cavaliers qui ont fait des saisons pro pendant un petit moment, et après, certains, c'est ponctuel, et en fonction des chevaux, ils partent, et après, ils restent ici pour faire des amateurs élites.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a du bon niveau? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la réussite chez certains clubs, certains cavaliers en Corse, avec, on l'a vu, ben, ces titres, ces podiums, ces bons classements au championnat de France? C'est quand même tout à fait remarquable par rapport à une petite ligue, j'allais dire, entre guillemets, au niveau régional.
Moi, je pense que c'est dû au travail qui a été accompli durant ces 15-20 dernières années. Hein. C'est-à-dire que le résultat, là, on commence à en tirer profit. C'est-à-dire que la première raison, c'est le calendrier. C'est le calendrier sportif qui se fait chaque année aux alentours du mois d'octobre, où les organisateurs se mettent ensemble pour pouvoir faire un calendrier régulier et surtout au fil des années qui devient pérenne. Donc si effectivement on n'avait pas de calendrier équilibré et surtout régulier, les chevaux ne sortiraient pas si souvent, et donc du coup les cavaliers ne pourraient pas être performants. Donc ça, c'est la première raison, et surtout des organisations qui de plus en plus deviennent de qualité, avec un système de qualification qui incite les gens et les organisateurs à respecter un programme. Et à partir de là, les cavaliers savent dans quelle épreuve ils doivent s'engager, donc, et de manière à progresser au fil des ans, monter de catégorie. Je pense que la première, et ça, c'est un travail qui se fait depuis déjà une quinzaine d'années.
Alors, un sport particulier, c'est un sport de couple avec un animal, avec un cavalier. Il faut un cavalier de bon niveau, il faut aussi un cheval qui soit d'excellence, j'allais dire, pour aller chercher des titres.
Après voilà, donc là on parlait de CSO, mais si on parle de catégorie western, de catégorie dressage, il faut bien sûr des chevaux adaptés au sport auquel on les destine. Donc c'est sûr qu'en Corse, depuis 15 ans, il y a eu des gros investissements qui ont été faits au niveau de la qualité des chevaux. Et quand on a des officiels qui viennent de l'extérieur pour voir nos concours, ou ne serait-ce que pour officier en tant que juge, ils se rendent compte que le niveau des chevaux qui est présenté a quand même vraiment augmenté.
Alors Laurent Duborgé, vous parliez de calendrier. Je crois que pour cette année 2020, vous avez mis en place un nouveau circuit labellisé qui s'appelle le Grand Régional. Qu'est-ce que ce circuit exactement ?
Alors en fait, donc ça c'est un circuit qui existe depuis deux ou trois ans dans d'autres régions, disons incité et disons un petit peu la promotion est faite par la fédération. Nous cette année on a voulu vraiment s'impliquer pour ce circuit grand régional. Bon, d'abord pour deux raisons, notamment en CSO. La première, c'est que les points comptent double, et ce qui nous permet d'avoir des qualifications plus faciles pour les championnats de France. Ça, c'est un premier point, parce qu'on est toujours sur un système dérogatoire pour qualifier nos cavaliers. Et avec ce système-là, ça nous permettait d'avoir le double des points dans chaque Grand Prix, et ce qui permettait de qualifier nos cavaliers beaucoup plus facilement, sans le système dérogatoire.
Donc là, c'est un système plus équitable.
Non, c'est-à-dire que ça permet de les cavaliers comme nous, on a beaucoup moins de concours sur le continent. Sur le continent, il y a des concours toutes les semaines, dans des micro-régions à 50 km à la ronde, vous pouvez trouver trois ou quatre concours, ce qui fait que les gens ont plus de facilité à se qualifier, puisque par exemple en amateur, les 100 premiers de la computer league sont prioritaires pour les championnats de France. Donc chaque année, nous, on avait un système dérogatoire qui nous permettait d'y aller, puisqu'on avait une computer league insulaire qui permettait de qualifier nos cavaliers. D'accord. Donc on arrivait quand même. Mais avec ce système-là, on a quand même des points qui se doublent sur les circuits grands régionaux, et donc les cavaliers peuvent se qualifier quasiment sans travailler sur la computer league Corse. Ça, c'est le premier point. Donc le deuxième point, c'est que en faisant un système de charte de qualité et d'organisation, on va monter de niveau les organisations. Et surtout de ce circuit. Et ce qui fait que les gens qui veulent intégrer le circuit en tant qu'organisateur doivent respecter la charte. Notamment pour certaines, on a mis en place le niveau d'âge pour les cavaliers chez les petits. Et ce qui fait que les gens vont courir dans leur catégorie d'âge. Alors qu'avant, tout le monde courait ensemble.
Donc il y a désormais des catégories d'âge. Alors on parlait des compétitions organisées en Corse. Laurent Duborgé, est-ce qu'on peut espérer revoir des concours de haut niveau, de niveau international chez nous?
Alors, c'est, bien sûr, ça, ce sont des objectifs plutôt à long terme. Nous, ce que l'on a voulu faire dans un premier temps, c'est vraiment remettre le circuit en place. Bon, en CSO, ça marchait bien, donc voilà. Mais notamment en endurance, sur les courses d'endurance, on veut refaire un circuit déjà insulaire avec des épreuves d'un niveau supérieur, et surtout des organisateurs, aider les organisateurs à repartir, parce qu'il nous manque quand même d'organisateurs en endurance. Et ensuite, on va essayer notamment en endurance de refaire une course, mais là c'est plutôt à l'échéance de un an ou deux ans, quoi. Voilà. Mais après, il est assez difficile d'organiser des compétitions internationales, notamment en saut d'obstacles. Bon, principalement à cause de la partie, disons,
transport.
Voilà, transport.
Le transport des
choses. Ça s'est fait, ça s'est très bien fait, ça a amené beaucoup de cavaliers, ça a permis de faire monter les niveaux, et ça, c'est vrai que c'était quelque chose une plus-value sur les concours. Maintenant, c'est très difficile en termes d'organisation, et voilà, donc il y a des organisateurs, je pense, vont pour le moment remonter le niveau en termes d'amateur élite avant de basculer sur un jour à CSI, ce qui serait bien sûr souhaitable. Hein.
D'accord. Alors Laurent Duborgé, je voudrais qu'on parle aussi de ce projet qui est en cours au sein du comité régional, notamment donc la création d'un pôle espoir équitation se réaliserait cette année.
Alors, donc nous, on a pris des contacts avec le CREPS d'Ajaccio, donc on a déjà eu une réunion avec eux. En fait, dans le projet du comité régional actuel était, il y en avait plusieurs, notamment la création d'un pôle espoir en équitation, que ce soit pour les jeunes, et un pôle élite pour le haut niveau de l'équitation insulaire, donc qui ne concernait pas forcément les jeunes cavaliers. En fait, nous, dans l'idée, au départ, on voulait créer ce qu'on va appeler la squadra gourse, c'est-à-dire des représentants dans chaque catégorie équestre de leur discipline, notamment en endurance, en western. Voilà, ça c'était le projet général. Donc en discutant avec le CREPS, eux, ils avaient aussi l'ambition de faire, donc de créer ce qui existe déjà pour d'autres sports comme la natation, le tennis, le foot, donc un pôle espoir ou un pôle excellence. Et donc on va avoir une réunion le 4 février avec eux, tout le comité régional, de manière à discuter de la possibilité et la faisabilité de
ce projet.
Projet qui va se faire donc à la rentrée 2020. Donc en gros, on est sur des bonnes bases pour le faire, avec plusieurs lycées qui accueilleraient des athlètes, avec bien sûr des écuries de compétition ou des clubs qui prendraient l'agrément pour l'espoir ou sport études. Et qui, à partir du mois de mai, juin, pourrait présenter des élèves qui intégreront le CREPS à partir du mois de septembre 2020.
Merci beaucoup, Laurent Duborgier, d'avoir été avec nous en direct dans ce magazine des sports sur RCFM. Donc, avec ce beau projet dont on parlait, hein, Pôle Espoir Équitation, qui pourrait voir le jour cette année. On va se retrouver dans un petit instant pour la fin de votre magazine des sports et on va faire un rappel tout à l'heure pour ce qui est des résultats du football.
Bleu avec notre temps présente l'Almanach 2020. Voyagez dans les plus belles régions de France, redécouvrez les trésors de notre patrimoine et apprenez les origines de la langue française. Plus de